Chapitre 8e. Il y a à Poitiers une charmante promenade publique qui longe le sommet de la haute colline autour de laquelle s'étend la ville. Plantée d'arbres énormes, elle domine les champs fertiles du Poitou. C'est là que se promena Newman presque toute la journée du lendemain de sa visite à Madame de Saint-Tré. Mais il aurait été parfaitement incapable, par la suite, de dire si ces admirables plaines étaient des mines de charbon ou des vignes. Tout entier à sa douleur, dont ses réflexions ne diminuaient pas l'intensité, trop convaincu, hélas, que Madame de Saint-Tré était irrémédiablement perdue pour lui, mais ne pouvant se résoudre à renoncer à elle, il lui aurait été impossible de tourner le dos à Fleurières et à ses habitants. Une sorte d'espoir désespéré le retenait encore là. Sa satisfaction avait été trop complète, son plan trop réfléchi et trop mûrement combiné, ses projets de bonheur trop amoureusement caressés pour qu'un scrupule de morale quintessentiée pût les ruiner d'un seul coup. Les fondations essentielles en semblaient fatalement ébranlées, mais malgré tout, il éprouvait un désir entêté de sauver l'édifice. Et puis, accepter en se résignant l'injure qu'on lui avait faite, et s'éloigner sans regarder en arrière, c'eût été là, en vérité, par trop de bonté d'âme. Il regardait au contraire avidement en arrière, et ce qu'il voyait ne calmait pas son ressentiment. Il se voyait lui-même plein de confiance, généreux, libéral, patient, facile à vivre, sourd à toutes les provocations et faisant preuve d'une modération sans bornes. Avoir tout supporté sans se plaindre, avoir été piqué, vexé, tourné en ridicule et avoir consenti à ne considérer ses coups d'épingle incessants que comme une des conditions du marché conclu, avoir fait tout cela et l'avoir fait pour rien, lui donnait certainement le droit de protester, et de protester violemment. Et pourquoi l'avait-on congédié? Parce qu'il avait été dans le commerce. Comme s'il n'avait jamais dit un mot ou seulement rêvé de commerce depuis qu'il connaissait les Bellegardes. Ah, il s'en souciait bien du commerce. Est-ce qu'il n'aurait pas consenti à le maudire 50 fois par jour, si cela avait pu augmenter ne fût-ce que de l'épaisseur d'un cheveu, ses chances d'un accueil sympathique de leur part? En admettant que sa qualité de commerçant leur fût une raison suffisante pour se moquer de lui, ils se trompaient étrangement, en tout cas, s'ils le croyaient disposé à supporter leur plaisanterie. C'était surtout en face de l'injure reçue que le poids de sa patience passée semblait lourd à Newman. Son irritation jusqu'à ce moment avait été, pour ainsi dire, adoucie par la certitude d'être aimé et l'espoir du bonheur à venir. Mais maintenant, il n'y avait de place en son cœur que pour le sentiment de l'outrage et un désir ardent, incessant de se venger. Quant à Madame de Saint-Tré, sa conduite le frappait d'une sorte de respect, et moins il parvenait à se rendre compte de la véritable signification des raisons qu'elle lui avait données, plus il sentait croître la force de son attachement pour elle. Jamais il ne s'était préoccupé ou ému de son catholicisme. Le catholicisme, pour lui, n'était qu'un mot, et manifester de la défiance de la forme dans laquelle ses sentiments religieux s'étaient moulés, lui aurait semblé de sa part une affection quelque peu prétentieuse de sa foi protestante. Si de telles fleurs, aussi parfaites que Madame de Saint-Tré, pouvaient pousser dans la terre catholique, le sol n'était certainement pas insalubre. Mais autre chose était d'être catholique et de se faire religieuse. Il y avait un je ne sais quoi de lugubrement comique dans la manière dont l'optimisme tout à fait moderne de Newman se trouvait tout à coup en présence des sombres expédients du vieux monde. Voir cette femme faite pour le bonheur conjugal, pour la maternité, pour toutes les joies de ce monde, se livrer à ce charlatanisme d'un travestissement tragique, c'était à croire qu'il rêvait tout éveillé, c'était un cauchemar, une mystification. Le malheureux Newman avait sans cesse présente à l'esprit la véhémence avec laquelle il avait embrassé Madame de Saint-Tré. Il se rappelait ses paroles et ses regards, cherchant à leur faire expliquer le mystère et leur donner un sens acceptable. Qu'avait-elle voulu dire par ces mots? C'est comme une religion. Était-ce simplement la religion dont son implacable mère était la grande prêtresse? Le seul fait certain, c'était qu'on avait usé de violence envers elle. Sa générosité avait tenté de résister, sans aucun doute, mais le cœur de Newman se révoltait à la pensée que ça avait été en vain. 24 heures se passèrent. Le lendemain, notre Américain se leva avec la résolution de retourner le jour même à Fleurières et de demander une dernière entrevue à Madame de Bellegarde et à son fils. Il ne perdit pas de temps à mettre son projet à exécution. Tout en parcourant au grand trot, dans la calèche qu'on lui avait louée à l'hôtel de Poitiers, la route menant au château, il pensa à profiter de la dernière recommandation de Valentin. Valentin lui avait dit qu'il pourrait en faire quelque chose, et Newman crut le moment propice pour s'en servir. Ce n'était pas, cela va de soi, la première fois qu'il y songeait depuis quelques jours. Le renseignement sans doute était incomplet, obscur et quelque peu embarrassant. Mais Newman n'était ni faible ni craintif. Valentin avait eu évidemment l'intention de le mettre en possession d'un instrument puissant, quoiqu'il n'en eût pas placé le manche tout à fait à portée de sa main. Et s'il ne lui avait pas révélé le secret tout entier, il lui en avait au moins donné le fil, un fil dont la vieille Mrs. Bread tenait l'autre bout. Mrs. Bread avait toujours fait l'effet à Newman de connaître des secrets, et comme il semblait jouir de sa confiance, il espérait pouvoir la décider à la partager avec lui. Tant qu'il ne s'agirait que de vaincre les scrupules de Mrs. Bread, il se sentait à l'aise. Pour ce qu'il y aurait à découvrir, il n'avait qu'une seule crainte, c'est que ce ne fût pas assez grave. Tout à coup, l'image de la marquise et de son fils lui passa devant les yeux. Il les vit tous deux devant lui, la vieille femme, la main sur le bras d'Urbain, avec la fixité froide et implacable de leur regard. Alors il s'écria que sa crainte était sans fondement. Il y avait du sang, pour le moins, au fond de ce secret. Il arriva à Fleurières presque fier, convaincu logiquement que devant sa menace de tout révéler, il renoncerait à la lutte. Et pourquoi, après cela, son bonheur ne serait-il pas aussi assuré qu'auparavant? Le frère et la mère, terrifiés, laisseraient échapper leur victime, et Madame de Saint-Tré, abandonnée à elle-même, lui reviendrait certainement. Que la chance s'en offrit à elle, elle remonterait à la surface et retournerait à la lumière. Comment pourrait-elle hésiter entre le couvent et lui? Newman, comme la première fois, laissa sa voiture à l'auberge du village et fit à pied le reste du chemin. En traversant le petit pont classique, il aperçut Mrs. Bread devant la porte du château. La vieille femme semblait attendre. Son visage, dont ses vêtements noirs faisaient encore ressortir la pâleur, portait les traces d'une profonde anxiété. Newman avait déjà eu occasion de remarquer que ses traits, d'une insignifiance si étrange, cachaient une grande sensibilité. Il ne fut donc pas surpris de la vivacité contenue avec laquelle elle murmura « Je pensais bien que vous reviendriez à la charge, monsieur. Je vous attendais. »« Je suis heureux de vous voir, Mrs. Bread, » dit Newman. « Vous êtes mon ami, je crois. »« Ah, monsieur, j'ai tant fait de vœux pour vous. Mais à quoi bon espérer maintenant ?»« Alors, vous savez comment ils m'ont traité ?»« Oh, monsieur, » dit sèchement Mrs. Bread, « je sais tout. » Newman hésita un moment. « Tout ?»« J'en sais trop. » « Du moins, monsieur, » continua la vieille servante avec un coup d'œil significatif. « On n'en sait jamais trop. Je vous félicite. Je suis venu pour voir Madame de Bellegarde et son fils. Sont-ils au château? Sinon, j'attendrai. Milady ne sort jamais et le marquis est presque toujours auprès d'elle. Voulez-vous leur dire à l'un ou à l'autre, ou à tous les deux, que je suis ici et désire leur parler? Puis-je prendre une grande liberté, monsieur ?» fit Mrs. Bread après un instant de réflexion. « Vous n'avez jamais pris une liberté que vous n'ayez justifiée, » dit Newman avec une politesse diplomatique. La brave dame baissa ses paupières vacillantes, comme si elle remerciait du compliment, mais là s'arrêta son remerciement. La situation était trop grave. « Vous êtes venu pour discuter avec eux, monsieur Newman. Peut-être ignorez-vous que Madame de Saint-Tré est partie ce matin pour Paris ?»« Ah, elle est partie. Elle entre dans un couvent. Oui, au Carmélite. Je vois que vous êtes au courant, monsieur. » Milady et le marquis sont furieux. C'est seulement la nuit dernière qu'elle leur a annoncé sa résolution. « Ah, elle leur avait donc caché ?» s'écria Newman. « Bon, bon, ah, ils sont furieux. »« Ils ne sont pas contents, » reprit Mrs. Bread. « Mais il faut avouer qu'ils ont leur raison pour cela. On prétend que c'est effrayant, ce couvent-là. De toutes les religieuses de la chrétienté, les carmélites sont les plus malheureuses. On peut bien dire qu'elles ne font plus partie de l'humanité. Monsieur, on leur fait renoncer à tout pour jamais, et penser qu'elle est là. Si j'étais femme à pleurer, monsieur, je pleurerais. « Il ne s'agit pas de pleurer, Mrs. Bread, » dit Newman. « Il faut agir, allez les avertir. » Il fit un pas pour entrer. Mrs. Bread le retint doucement. « Puis-je prendre une autre liberté, monsieur ?»« On m'a dit que vous étiez auprès de mon cher Valentin à ces derniers moments. Si vous vouliez me parler de lui, le pauvre comte était comme mon enfant. » Dès la première heure de sa vie, c'est à peine si je l'ai quitté. Je lui ai appris à parler. Et le comte parlait si bien, monsieur. Il a toujours été si bon pour sa pauvre vieille Bread. Quand il grandit et commençait à s'amuser, il eut toujours une bonne parole pour moi. Et mourir, de cette horrible façon? On prétend qu'il s'est battu avec un marchand de vin. Je ne puis croire ça, monsieur. Et a-t-il beaucoup souffert? Vous êtes une bonne et brave vieille femme, Mrs. Bread. J'avais espéré vous voir un jour porter dans vos bras mes enfants. Peut-être le verrai-je cependant. Il lui tendit la main. Mrs. Bread regarda un moment cette main ouverte. Alors, comme si elle eût été fascinée par ce geste auquel elle s'attendait si peu, elle avança sa main, que Newman garda résolument et fermement dans la sienne, en regardant la vieille femme en plein visage. « Vous voulez tout savoir sur les derniers moments de M. Valentin ? » fit-il. « Ce serait un triste plaisir pour moi, monsieur. Eh bien, je vous dirai tout. Pouvez-vous quelquefois sortir d'ici ? Du château, monsieur ? Réellement, je ne sais pas trop. Je n'ai jamais essayé. Essayez alors. Essayez sérieusement. Essayez ce soir. Ce soir, à la tombée de la nuit, venez me rejoindre dans les vieilles ruines là-bas, sur la colline devant le porche de l'église. Je vous y attendrai. » Mrs. Brand le regardait d'un air étonné, la bouche entrouverte, cherchant à comprendre. « J'ai quelque chose de très important à vous dire, » continua Newman. « Une vieille servante comme vous est libre d'aller venir quand bon lui semble. »« C'est de la part du comte, monsieur ?» demanda-t-elle. « Oui, de la part du comte, à son lit de mort. »« Je viendrai alors. Pour lui, je serai hardi, pour une fois. » Elle conduisit Newman dans le grand salon où elle le laissa seul. Il attendit longtemps. Impatienté, il était sur le point de sonner quand le marquis entra, donnant le bras à sa mère. « Ah ah !» se dit mentalement Newman avec une parfaite bonne foi, en les voyant s'avancer vers lui. « Décidément, ce sont des misérables. Il n'y a plus de doute maintenant. Quelle mine ils ont ! Ils ont jeté le masque !» Madame de Bellegarde et son fils avaient certainement l'air fort troublé. Il était évident qu'ils avaient dû passer une nuit sans sommeil. De plus, il eût été, en vérité, par trop invraisemblable que, se trouvant tout à coup en présence d'un homme dont il se croyait jamais débarrassé, ils l'accueillissent avec des regards favorables et sympathiques. Mais Newman ne réfléchissait pas à tout cela. Il lui semblait que la porte d'un sépulcre se fût brusquement ouverte, laissant échapper l'humidité de l'ombre. « Vous le voyez, je suis revenu. J'ai voulu tenter un dernier effort. »« Il serait ridicule, » répondit M. de Bellegarde, « de prétendre que nous sommes heureux de vous recevoir ou que nous trouvons votre visite de bon goût. Oh, ne parlons pas de convenance. » Cela pourrait donner à la conversation un tour que je veux éviter. Si je n'avais consulté que mon goût, je ne serais certainement pas venu vous voir. Mais rassurez-vous, je ne resterai que le temps qu'il vous plaira. Promettez-moi de lever le blocus, de rendre à Madame de Saint-Tré ses libertés, et je me retire à l'instant. Nous hésitions à vous recevoir, observa Madame de Bellegarde. Nous avons même été sur le point de décliner cet honneur. Mais il m'a semblé que nous devions agir envers vous avec politesse, comme nous l'avons toujours fait. Et j'ai désiré me donner la satisfaction de vous informer qu'il y a de certaines faiblesses dont les personnes de notre rang ne se rendent coupables qu'une seule fois. Vous pourrez n'être faible qu'une fois, mais vous serez audacieuse plus d'une, madame, répondit Newman. Je ne suis pas venu cependant pour faire la conversation avec vous, mais simplement pour vous dire ceci. Vous allez écrire immédiatement à votre fille que vous ne vous opposez plus à son mariage, et je me charge du reste. Il est impossible que votre intention soit de faire de votre fille une religieuse. Vous connaissez mieux que moi l'horreur d'un semblable avenir pour elle. Épouser un commerçant vaut encore mieux, n'est-ce pas? Donnez-moi une lettre, signée de vous, scellée de vos armes, disant que vous retirez votre veto, qu'elle peut m'épouser avec votre consentement et votre bénédiction. Je la ferai sortir. C'est pour vous une chance. Je me permets d'appeler ces conditions des conditions douces. Nous envisageons les choses tout différemment, monsieur. « Nous trouvons ces conditions très dures, » répondit Urbain de Bellegarde, le regard hautain, l'air dédaigneux. « Je croyais que ma mère vous avait averti que nous aimerons mieux sœur Catherine que Madame Newman. » La vieille marquise, avec la sérénité de la puissance suprême, laissait son fils parler pour elle. Elle se contentait de sourire, presque aimablement, secouant la tête et répétant « Une seule fois, monsieur Newman, une seule fois. » « Et rien ne pourrait vous forcer ?» demanda Newman après un instant de silence. « Ne connaissez-vous rien qui pourrait vous contraindre ?»« Ce langage, monsieur, » dit le marquis adressé à des personnes dans la douleur et dans le deuil, « est au-dessous de toute qualification. »« Dans beaucoup de cas, votre observation serait juste. »« Et si je ne me suis pas laissé arrêter par la pensée de votre deuil présent, si je suis venu ici sans scrupule, c'est que je considère votre frère et vous comme deux êtres absolument différents. » Je n'établis aucune corrélation entre vous. Blessé et mourant, Le pauvre garçon m'a fait ses excuses pour votre indigne conduite. Il s'excusa aussi pour celle de sa mère. » Au premier moment, l'effet de ces paroles fut foudroyant sur Madame de Bellegarde et sur son fils. Leurs visages s'empourprèrent d'une vive rougeur. Ils échangèrent un regard semblable à une scintillation d'acier. Urbain murmura deux mots que Newman put à peine saisir, mais dont le sens lui arriva pour ainsi dire comme dans la répercussion d'un bruit. « Le misérable !»« Vous montrez peu de respect pour les vivants, monsieur, » murmura Madame de Bellegarde en cherchant à affermir sa voix. « Mais respectez au moins les morts. Ne profanez pas, n'insultez pas la mémoire de mon fils innocent. Je dis la simple vérité et je la dis à dessein. Je le répète et distinctement. Votre fils était profondément dégoûté de votre conduite. Votre fils m'a fait ses excuses. Vous vous trompez du tout au tout, monsieur. Mon fils était quelquefois léger, mais jamais inconvenant. Il est mort fidèle à son nom. » « Vous l'avez tout simplement mal compris, » dit le marquis qui commençait à se remettre. « Vous affirmez l'impossible. » « Oh, je me souciais peu des excuses du pauvre Valentin, » répliqua Newman. « Elles m'ont été beaucoup plus pénibles qu'agréables. Je n'avais rien à lui reprocher à lui. Il ne m'a jamais fait de mal, pas plus à moi qu'à personne. Il était l'honneur même, et ses excuses ne m'ont prouvé qu'une chose, c'est la manière dont il jugeait votre conduite dans toute cette affaire. Si vous entendez par là que mon pauvre frère, dans ces derniers moments, n'avait plus toute sa tête, nous ne pouvons que constater que dans cette triste circonstance, rien n'était plus probable. Mais n'allez pas plus loin. Il jouissait au contraire de tout son bon sens. Jamais je ne l'ai vu si lucide et si raisonnable. Ah, c'était un triste spectacle que d'assister à la mort, et quelle mort, d'un garçon d'une telle intelligence et d'un tel cœur. Vous le savez, j'avais une profonde affection pour votre frère. Il m'a donné à sa dernière heure des preuves de la sanité de son esprit. » La marquise releva majestueusement la tête. « Ceci passe la permission. Nous refusons de vous croire, monsieur. Nous vous donnons le démenti le plus formel. Urbain, ouvrez la porte. » Elle se tourna vers son fils avec un geste impérieux et traversa rapidement le salon. Le marquis s'empressa de la suivre et ouvrit la porte. Newman était resté à la même place. Il fit de la main un signe à M. de Bellegarde, qui, après avoir laissé passer sa mère, semblait hésiter à sortir et s'avança lentement vers lui, décidé à une dernière tentative de conciliation. « Voyons. Vous ne me traitez pas bien, admettez cela au moins. » M. de Bellegarde le regarda de la tête aux pieds, puis de sa voix la plus douce, de son ton d'homme bien élevé. « Personnellement, je vous déteste. » C'est exactement ce que j'éprouve pour vous, et c'est par pure politesse que je ne le dis pas. Il est singulier que je désire autant devenir votre beau-frère, mais je ne saurais y renoncer. Laissez-moi essayer une fois encore. » Il s'arrêta un instant. « Vous avez un secret. Vous avez un poids sur la conscience. Vous et votre mère, vous avez commis un crime. » Monsieur de Bellegarde n'avait pas cessé de le regarder avidement, sans cependant que l'expression de ce visage trahît aucune émotion. Son empire sur lui-même était si extraordinaire. Mais à ce moment, ses yeux papillotèrent comme une bougie qui s'éteint. « Continuez. Ai-je besoin de continuer? Vous êtes tout tremblant. Et je vous prie, où avez-vous obtenu cet intéressant renseignement? Je serai strictement véridique. Je ne prétends pas en savoir plus que je n'en sais. Quant à présent, c'est là tout ce que je sais. Vous avez commis une action qu'il vous faut tenir cachée, une action qui vous perdrait si elle était connue, une action qui déshonorerait le nom dont vous êtes si fier. J'ignore encore ce que c'est, mais je puis le découvrir. Persistez dans votre conduite présente à mon égard, et je découvrirai la vérité. N'y persistez pas, laissez votre sœur aller en paix, et je ne m'occupe pas de vous davantage. N'est-ce pas un marché acceptable ? » Le marquis réussissait presque à ne pas paraître troublé. Le bris de la glace de sa belle contenance faisait une opération nécessairement graduelle. Mais l'argumentation doucement articulée de Newman semblait le presser et il finit par détourner les yeux. Il resta quelques instants à réfléchir. « Mon frère vous a dit cela ? » fit-il en relevant la tête. Newman hésita un moment. « Oui, votre frère me l'a dit. » Monsieur de Bellegarde sourit agréablement. « N'avais-je pas raison de vous affirmer qu'il n'avait pas tout son bon sens ? « Il ne l'avait pas, si je ne puis rien découvrir, mais si j'y parviens, il l'avait tout entier. »« Eh, monsieur !» s'écria Bellegarde en haussant les épaules. « Découvrez ou ne découvrez pas, c'est comme il vous plaira. Je ne vous effraie pas. Cette affaire est à vous d'en juger. » « Non, C'est à vous d'en juger. Prenez votre temps, réfléchissez, faites votre examen de conscience. Je vous donnerai une heure ou deux. Je regrette de ne pas pouvoir vous accorder davantage, car qui sait avec quelle rapidité on peut faire de Madame de Saint-Tré une religieuse. Parlez à votre mère. Qu'elle juge, elle, s'il n'est pas effrayé, quoique je ne pense pas qu'elle s'effraie si facilement que vous, en général. Enfin, vous verrez. J'attendrai votre réponse à l'auberge du village. Je vous demande seulement de me l'envoyer aussitôt que possible, disons 3 heures. Un simple oui ou non dans une lettre suffira. Mais vous savez, en cas de réponse favorable, je compte que cette fois, vous ne romprez pas le marché. En disant ces mots, il ouvrit la porte et sortit. Le marquis ne bougea pas. Newman, avant de s'éloigner, lui jeta un regard et répéta « À l'auberge du village !» Quelques minutes après, il avait quitté le château et retourné à Fleurières. Il s'efforça d'attendre là, patiemment, pendant 2 heures. Mais malgré qu'il en eût, son agitation était extrême. On n'évoque pas impunément le spectre du déshonneur dans une famille vieille de 1000 ans. Il comptait peu sur un message de M. de Bellegarde, car une réponse à sa provocation, dans un sens ou dans l'autre, serait s'avouer coupable. Il ne s'attendait qu'au silence, c'est-à-dire à un défi. À 3 heures, un valet de pied lui remit un billet. Billet écrit de la belle main anglaise d'Urbain de Bellegarde, il contenait ces quelques lignes. « Je ne saurais me refuser la satisfaction de vous faire savoir que je retourne demain à Paris avec ma mère, pour voir ma sœur et la confirmer dans la résolution qui est la réponse la plus efficace à votre audacieuse obstination. » Henri Urbain de Bellegarde. Newman mit la lettre dans sa poche et continua de se promener de long en large dans le parloir de l'auberge. C'était là le principal emploi de son temps depuis une semaine. Quand le jour commença à tomber, il sortit pour se rendre à son rendez-vous avec Mrs. Bread. Il trouva facilement le chemin qui conduit aux ruines, au sommet de la colline, et ne mit que peu de temps à le parcourir en entier. Il passa sous la vieille arche des murs du château et jeta un coup d'œil dans la cour, espérant, malgré l'obscurité naissante, y apercevoir Mrs. Bread. La cour était vide, mais Newman vit la porte de l'église ouverte. Il entra dans la petite nef, où, naturellement, l'obscurité était plus profonde qu'au dehors. À la lueur vacillante de 2 bougies, allumées sur l'autel, il put distinguer cependant une personne assise près de l'un des piliers, et un examen plus attentif lui fit connaître la fidèle servante, malgré la splendeur inaccoutumée de son costume. Un grand chapeau de satin noir, bordé d'imposantes ruches de crêpes, et une vieille robe de soie noire à larges plis. Elle avait jugé l'occasion favorable pour se montrer à Newman dans ses atours d'apparat. Assise, les yeux fixés à terre, elle se leva en le regardant quand il passa devant elle. « Êtes-vous donc catholique, Mrs. Bread ?» demanda l'Américain. « Non, monsieur, je suis de l'église d'Angleterre, mais j'ai pensé que je serais mieux ici que sur la route. Je n'étais jamais sorti du château avant ce soir, monsieur. »« Nous serons mieux, » dit Newman, « là où personne ne peut nous entendre. Venez. » Il rebroussa chemin jusqu'en face de la cour du château, puis suivit un sentier au-delà de l'église, qu'il supposait devoir mener à une autre partie des ruines. Il ne se trompait pas. Après avoir longé le sommet de la colline, il se trouva devant un fragment de mur percé d'une ouverture grossière, qui avait été jadis une porte. À quelques pas plus loin que cette ouverture, la colline s'abaissait brusquement et sur la crête de l'éminence 2 ou 3 énormes pierres étaient restées debout. Au-dessous, dans la plaine, obscurité complète. L'endroit était certainement bien choisi pour une conversation sans témoin. Mrs. Bread avait lentement suivi son guide, qui, après s'être assuré de la solidité de l'une des larges pierres des ruines, lui proposa de s'y asseoir et s'assit lui-même près d'elle.